De cause à effet, le magazine de l'environnement.
Elle couvre près de 17 millions d'hectares dans l'Hexagone, dont 1 million déjà condamnés, dit-on. La forêt est en stress hydrique. Formidable puits de carbone, essentiel à la vie, les arbres qui sont les fondations de la biodiversité terrestre sont aujourd'hui en souffrance. En cause, le réchauffement climatique et les épisodes de sécheresse à répétition qui provoquent une surmortalité des espèces constatée à l'échelle planétaire. Depuis des années, des spécialistes observent nos frères végétaux pour en prédire la santé et notre avenir. Mais au-delà de ces données scientifiques, ne s'agit-il pas aussi de changer notre regard et nos pratiques vis-à-vis de ces alliés pour un monde plus durable ? Dans le cadre de la coalition hashtag Sauver le présent qui rassemble chaque mois France Culture, Le Parisien, la revue Ouzbek Erika et le magazine Science et Vie Junior, la forêt est au cœur de notre dossier commun, un dossier à retrouver comme d'habitude sur le site de l'émission via franceculture.fr. L'appel de la forêt sera-t-il entendu ? Réponse ce soir avec nos deux invités en direct. Karine Marcilly, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes arboriste grimpeuse, présidente de la défense du patrimoine arboré de la Manche et puis auteur du livre « Ma vie avec les arbres » paru chez HarperCollins. Et Hervé Cochard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de recherche à l'INRAE, écophysiologiste, spécialiste du système hydraulique des plantes à l'UMR PIAF de Clermont-Ferrand. Et puis dans l'œil du monde planète, c'est le journaliste Henri Sequel du service société du quotidien Le Monde qui sera des nôtres. Il reviendra sur le jugement du tribunal de Gap dans l'affaire de la queue de loup. Bienvenue à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, préparé toujours par Anaï Morales avec nos complices Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset et Vanessa Chang. Émission réalisée par Alexandra Malka avec à la technique ce soir Clément Daté.
Mieux vaut ne pas avoir le vertige pour grimper au sommet de ce pin, l'un des plus vieux sujets du parc, l'un des plus hauts aussi, 24 mètres. Ces hommes sont là pour sécuriser ces branches.
C'est très très important de pouvoir les maintenir à... sans couper de bois en plus, parce que si on commence à couper des branches, on va créer des entrants au niveau pathogène, et c'est là où on a de réels problèmes. Voilà, il faut savoir qu'un arbre, au moins on les lague, au mieux on se porte.
Laurent, tu décrocheras la branche cassée là-bas.
Il faut respecter l'architecture de l'arbre et réfléchir au mouvement qu'il peut avoir en fonction des coups de vent et autres. C'est assez long, ouais, mais bon, on prend le temps, surtout des grands sujets comme ça. Voilà.
Baptisé le fantôme blanc par les visiteurs, cet eucalyptus devrait être traité. C'est une espèce rare, il a l'âge du jardin, plus de 150 ans, un jardin où les arbres sont considérés comme des êtres vivants.
Les arbres ont un rôle extrêmement important au niveau de l'environnement, au niveau de la biodiversité. Ils jouent, c'est pour nous des soutiens formidables pour l'ombre, pour la fraîcheur, pour tenir les sols, pour produire toutes sortes de choses. Enfin, bref, ce sont des êtres vivants tout à fait exceptionnels et qu'on devrait respecter.
Je crois que vous avez compris, vous l'entendiez, nous étions dans les Alpes-Maritimes. C'est un reportage qui a été diffusé sur France 3 le 23 juillet 2020. Les arbres, la forêt, un savoir, une expertise plus que jamais nécessaire aujourd'hui. Mais avant tout, et pour commencer peut-être avec vous, une passion respectueuse, souvent nourrie dans l'enfance. Est-ce que c'est votre cas, Hervé Cochard ?
Oui, probablement, oui. Moi, je suis né dans une forêt, en fait. Mes parents habitent dans une forêt, enfin, en lisière d'une forêt dans l'ouest de la France. Et aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours vu des arbres autour de moi, et ça est probablement une des raisons pour laquelle je m'intéresse aux arbres actuellement dans mon métier, oui, certainement.
Et apparemment, avant de vous voir chercheur, spécialiste, vous vous êtes vu garde forestier, je crois, et vous étiez passionné, vous êtes toujours passionné de champignons, hein.
Ah oui, c'est la mycologie, là, c'est mon dada qui m'occupe en dehors de mes heures de travail. C'est découvrir la biodiversité. J'ai eu la chance de découvrir de nouvelles espèces. On trouve régulièrement de nouvelles espèces de champignons en France. Et donc, c'est les décrire et contribuer à mieux faire connaître la biodiversité. Et l'enjeu, c'est finalement de décrire cette biodiversité avant qu'elle ne disparaisse, en fait. C'est ça, elle disparaît vite et il y a encore plein d'espèces qu'on découvre et qui risquent de disparaître avant qu'on les ait découvertes.
Ouais, une course contre la montre. Karine Marcilly, de votre côté, une enfance aussi qui vous a nourri en matière d'arbres, de forêts?
Alors moi, c'était ma cour de récréation, comme j'étais sur Paris, petite, au milieu des immeubles. J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui avaient un chalet en Haute-Savoie. Et alors là, je passais mon temps avec les arbres, à grimper dans les arbres. C'était pour moi mes meilleurs amis, déjà. Et je souhaiterais pouvoir partager cette enfance avec tous les enfants d'aujourd'hui pour qu'ils apprennent à ouvrir les yeux sur ces organismes vivants indissociables de nos vies et qu'il faut commencer vraiment à respecter avec une beaucoup plus grande envergure que ce que l'on fait aujourd'hui.
Et oui, alors vous pouvez aussi citer la forêt de Compiègne, je crois, Marie Leroy aussi avec vos grands-parents, et puis vous êtes devenue Titi la Brindille, donc la femme écureuil. C'est comme ça qu'on vous surnomme, en sachant que vous aviez d'abord commencé enseignante, mais que c'est l'appel certainement des arbres qui a gagné sur vous. Comme vous le dites, hein, Karine Marcilly, ce sont des êtres végétaux qui nécessitent de l'attention, des soins, et surtout un autre regard. Il faut faire évoluer les mentalités, les pratiques.
Complètement. Je suis souvent contactée pour tout simplement réduire un arbre en hauteur parce que les gens le trouvent trop grand, ou alors parce qu'il fait trop d'ombre, ou que les gens ont peur des racines, sont gênés par la chute des feuilles, des fruits. Et je ne cesse de défendre le droit de l'arbre, et je n'ai donc jamais été un arbre, et j'explique les réactions, et les gens en fait découvrent finalement comment fonctionne un arbre au moment où ils font intervenir un élagueur. Donc il va être grand temps d'ouvrir ses connaissances aux plus jeunes d'entre nous pour qu'on arrête ces demandes mesquines et qui sont de plus en plus des contrariétés entre voisinages. Voilà.
Est-ce que l'on comprend dans votre parcours, on s'arrête un instant sur justement votre parcours qui a été quand même à la fois, enfin, insolite dans le sens où au début vous étiez certainement la première femme élagueuse, mais surtout on comprend que l'apprentissage que vous avez eu ne donnait pas les clés de compréhension forcément des arbres et n'était pas forcément aussi celui qui était dans le respect, puisque on vous apprenait à utiliser la tronçonneuse, mais vous avez choisi de travailler avec une scie japonaise. Donc c'est vraiment vous qui avez peut-être aussi révolutionné, on peut dire, cet enseignement, puisque vous êtes devenue aussi formatrice.
J'ai eu la chance donc d'avoir des bagages, on va dire, des diplômes avant de rentrer au certificat de spécialisation de taille et soin des arbres. Et donc moi, mon but était vraiment la préservation de l'arbre. Donc l'utilisation de la tronçonneuse en tant que telle va contre mes principes de respect du travail que l'on a effectué quand on taille un arbre. Et oui, je me bats notamment avec mes stagiaires pour leur faire comprendre que couper du bois n'a aucun sens, et que notre principal client n'est pas la personne qui nous demande d'effectuer un travail pour lequel elle ne connaît pas les réactions, mais bien l'arbre en lui-même. C'est lui notre client, et c'est lui que l'on doit respecter avant de penser au moindre gain que l'on pourrait avoir en opérant bêtement des chantiers à réaliser demandés par la clientèle.
Hervé Cochard, donc avant de plonger dans les mystères, hein, et les connaissances qui sont les vôtres aussi sur ces arbres et la façon dont ils fonctionnent, vous aussi, vous avez ce sentiment qu'aujourd'hui, on en est loin encore peut-être de la prise de conscience, et qu'il faut faire évoluer non seulement les mentalités, mais aussi les pratiques, et donc ça veut dire l'enseignement?
L'enseignement, très certainement, l'enseignement forestier, mais l'enseignement de tout un chacun. On a vraiment l'image de l'arbre inerte, un être longévive qui peut survivre des centaines, parfois des milliers d'années. On a l'impression que qu'ils sont très robustes, qu'ils vont résister à tout. Et en fait, non, ce sont des êtres très 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 fragiles. Ils ont vécu dans des climats et des environnements relativement stables depuis des milliers d'années. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, où le climat change, eh bien, ils se révèlent beaucoup plus fragiles que ce qu'on pouvait le penser, et ça, il faut le faire partager à ceux qui vont vivre ce changement climatique et qui vont prendre les bonnes décisions pour essayer de les limiter au maximum, donc les jeunes, les scolaires, voilà.
Alors dites-nous justement, comment ils fonctionnent et comment ils se développent?
Alors comment ils fonctionnent, c'est compliqué comme question, il y a beaucoup de points différents. Alors ce que Un arbre, qu'est-ce que ça cherche à faire, si on veut poser la question comme ça? Ça cherche à capter le CO2 qui est dans l'atmosphère et de transformer ce CO2 en sucre. Et ces sucres, ça va être finalement la nourriture qui va permettre à l'arbre de vivre, de faire de la croissance. Donc c'est ça que le fonctionnement principal, c'est ce processus chimique qu'on appelle la photosynthèse. Chacun aura compris de quoi il s'agit. Et donc un arbre, c'est fait pour faire de la photosynthèse. Et donc pour arriver à cette fin, la stratégie, c'est de développer des surfaces, les feuilles, qui vont capter l'énergie lumineuse et puis essayer d'absorber un maximum de CO2 pour pouvoir faire de la croissance, produire des graines, se reproduire. Donc voilà, c'est ça. Et ce qui m'intéresse particulièrement dans ce type de fonctionnement, c'est que certes, il y a de CO2 qui est absorbé, mais il y a manquablement énormément d'eau qui est évaporée. On pourra revenir sur pourquoi les arbres consomment tant d'eau. Et l'utilisation de cette eau, en fait, lorsqu'il y a des sécheresses, elle est compromise. Et c'est l'objet de mes études, essayer de comprendre comment le stress hydrique perturbe le fonctionnement de l'arbre et peut induire jusqu'à la mortalité dans certaines conditions extrêmes.
Parce que l'arbre, c'est aussi un système de canalisation, de vaisseaux où coule la sève, donc des racines jusqu'aux feuilles aussi. Et c'est vraiment tout un système, c'est une architecture hydraulique, en fait.
Voilà, donc on parle d'architecture hydraulique. On parle de système hydraulique comme on parle d'hydraulique quand on s'intéresse à un circuit d'irrigation. Et en fait, un arbre s'est construit aussi pour irriguer les feuilles. Donc les feuilles évaporent énormément d'eau. Au cours d'une journée, ce sont des centaines de litres qui traversent le tronc d'un arbre, d'un gros arbre. Et donc il y a énormément d'eau qui est évaporée. Et donc il faut en permanence réhydrater les feuilles. Et donc l'arbre met en place un tissu conducteur et qui est formé de milliers et de milliers de petits tuyaux qu'on trouve dans l'aubier. Si vous regardez l'aubier à la loupe, il n'y a pas forcément d'un microscope, vous allez voir plein de petits trous. Et ces petits trous, ce sont des tuyaux, c'est des tuyaux d'arrosage dans lesquels circule la sève. Et cette sève, elle est indispensable pour maintenir les feuilles bien hydratées et permettre la photosynthèse.
En sachant que les arbres ont besoin aussi de beaucoup d'eau, parce que c'est dans cette eau qu'ils obtiennent aussi les nutriments nécessaires à leur développement. Hein.
Voilà, alors les chercheurs se posent depuis le 17e, voire même avant, de savoir pourquoi les arbres consommaient de l'eau. Donc il y a différentes raisons à celle-là. Donc il y a celle que vous venez d'évoquer, hein, c'est-à-dire que la plante, l'arbre cherche à absorber des minéraux, de l'azote, du phosphore, ça c'est indispensable pour construire ses protéines et assurer son fonctionnement. Et les minéraux, ils sont dans le sol, dans l'eau du sol, et ils sont en général très dilués. Et donc, il faut absorber quand même beaucoup d'eau pour pouvoir avoir la quantité de minéraux suffisante. Ça sert aussi de climatiseur. Lorsque l'eau s'évapore au niveau des feuilles, ça consomme de l'énergie, et donc ça permet de refroidir les feuilles lorsqu'il fait très chaud. C'est aussi cette fonction-là. Et puis, ça sert aussi à faire de la croissance. Les arbres, ils sont finalement constitués essentiellement d'eau. Et donc, pour mettre en place de nouvelles cellules, pour faire de la photosynthèse, il faut un petit peu d'eau. Mais en fait, la raison principale, on se rend compte que c'est pas celle-là. Et on constate que c'est plutôt ce qu'on appelle un mal nécessaire. C'est-à-dire que la plante ne cherche pas forcément à consommer beaucoup d'eau, mais elle ne peut pas y échapper. Elle n'a pas le choix. C'est des contraintes physiques, c'est des lois de la thermodynamique qui nous disent que si la plante veut faire rentrer du CO2, eh bien, elle n'a pas le choix, elle doit laisser échapper énormément de molécules d'eau. Et ça, c'est simplement lié au fait que les feuilles, elles sont saturées en eau, que l'air est très sec, et que si elles veulent faire ménager des petits trous dans ces feuilles pour faire rentrer le CO2, donc à travers les stomates, eh bien, immanquablement, il y a énormément d'eau qui s'échappe. Et pour donner une ordre d'idée, lorsqu'il y a une molécule de CO2 qui rentre dans une feuille, il y a à peu près 400 molécules d'eau qui s'évaporent vers l'atmosphère. Et donc l'arbre doit consommer énormément d'eau, et un arbre qui est en bonne santé consomme beaucoup d'eau, et c'est ce que cherchent à faire les agronomes, par exemple, à maintenir un statut hydrique performant de façon à avoir un meilleur rendement in fine. Quoi.
Et puis dans cette alchimie, le réchauffement climatique s'invite dans leur vie. La mortalité dans les forêts, les parcs, les jardins est devenue un phénomène global qui s'aggrave. Je vous propose d'écouter ce reportage diffusé sur France 3 le 8 septembre 2020.
Ces silhouettes fantomatiques hantent désormais nos forêts françaises. En cause, les fortes chaleurs, combinées aux sécheresses à répétition.
L'arbre, pour pousser, lui faut de l'eau, mais aussi des minéraux qui va puiser dans le sol. Et donc, il y a une rupture au niveau de l'alimentation en eau. Et donc, par la suite, il a dépéri. Donc, il a perdu ses feuilles, et donc il a jauni. Et donc, la qualité du bois s'est altérée.
Dans la forêt de Troncé, dans l'Allier, 70% des hêtres ont dû être abattus. Du jamais vu.
En l'espace de 2 ans, les hêtres, en fait, depuis des petits diamètres de 25 cm, donc des arbres gros comme ça, jusqu'à des arbres comme ça, sont morts aussi bien à l'intérieur de la forêt que sur les bords de route.
Feuillus, mais aussi épicéas, pins, sapins, peu d'espèces sont épargnées. Les arbres, affaiblis par le manque d'eau, deviennent incapables de se défendre. Ce garde forestier l'a encore constaté ce matin dans cette forêt d'Épinac en Saône-et-Loire. Ici aussi, le scolyte, un parasite, fait des ravages.
Ce sera beaucoup plus facile pour lui pour attaquer l'arbre et se développer. Quand un arbre est scolyté, il est automatiquement mort. Il n'y a pas de rémission.
Selon les derniers chiffres, 45% des forêts gérées par l'ONF ont été impactées par la sécheresse ces 3 dernières années. Les régions les plus touchées sont la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, mais aussi le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Pour faire face au défi du dérèglement climatique, la forêt française va devoir se réinventer.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Des épisodes de sécheresse plus fréquents, un stress hydrique destructeur et puis une plus grande faiblesse face aux ravageurs. Karine Marcilly, peut-être une réaction face à ce reportage, parce que vous le vivez sur le terrain. Hein.
Alors moi, je suis surtout témoin de massacres, mettons le long des routes, par des machines qui colportent énormément les virus qui circulent à l'heure actuelle, notamment sur le frêne, hein, le chalara. Ça a été le cas dans notre région qui était très riche en normes. Il y a eu le scolyte, certes, mais le virus a été essentiellement transporté par des machines qui ne sont jamais nettoyées, jamais désinfectées, comme ce sont des virus, évidemment, comme nous. Dès qu'on occasionne des plaies sans désinfecter les outils, on colporte ces maladies-là directement dans les canaux de sève. Et alors, je voulais revenir sur la photosynthèse. Donc, c'est vrai que c'est un organisme extraordinaire, hein, qui capte pour fabriquer 1 kilo de bois, il va capter 2 kilos de gaz carbonique. Mais il ne faut pas oublier aussi que avec ce CO2, l'arbre est capable de fabriquer de l'eau pure qui n'a jamais été polluée ni consommée au préalable, hein, qu'il stocke dans ses tissus. Donc, ce sont quand même des machines auxquelles on doit un respect énorme, parce que non seulement ils nous fabriquent notre oxygène indispensables dans nos éléments vitaux premiers, mais ils sont aussi capables de fabriquer de la nouvelle eau. Et je pense aussi que le problème des forêts, comme je vois la manière dont elles sont plantées, c'est qu'on ne laisse plus la place aux anciens arbres, on ne laisse plus la qualité de la forêt se faire d'elle-même, on lui impose une culture particulière et on considère la forêt aujourd'hui comme un champ de maïs. Donc je ne suis pas très étonnée non plus, moi, de voir des cultures entières où il n'y a que des épicéas, où il n'y a aucune vie au niveau des sols. Ces arbres qui n'ont pas créé de relations avec d'autres organismes vivants, dépérir et se laisser envahir par toute une sorte d'envahisseur, étant donné que ça devient de la monoculture. Et il y a une énorme destruction des sols faite lors des plantations. Donc je pense qu'il faudrait qu'on réapprenne aussi à implanter les forêts de demain, comme vous dites.
Hervé Cochard, c'est vrai que favoriser le mélange des espèces et donc les forêts hétérogènes, c'est une solution d'ailleurs. Je crois que vous préconisez aussi, face notamment à la défaillance hydraulique, mais il y a cette défaillance hydraulique due au réchauffement climatique. Et puis, comme le laisse comprendre et entendre Karine Marcilly, il y a aussi les pratiques humaines qui font aussi des dégâts.
Oui, alors la défaillance hydraulique, ce qui m'interpelle, c'est que c'est une découverte, une avancée scientifique, disons, qui est très très récente, hein, où on y a contribué. Et ce qui me fait plaisir, c'est que les praticiens, on l'a vu dans le reportage que vous avez diffusé, ils y font référence. Donc le lien entre la recherche fondamentale et la pratique, il existe. Et enfin, moi, en tant que chercheur qui suis plutôt sur des processus assez fondamentaux, ça fait très plaisir de voir que les gens s'approprient nos découvertes et ça les aide à mieux comprendre ou mieux raisonner l'impact du changement climatique. Alors sur les forêts hétérogènes ou les forêts avec plus de biodiversité, effectivement, il y a des travaux qui montrent que ce sont des forêts qui sont plus résilientes, donc qui encaissent mieux les effets d'une sécheresse, par exemple. Alors les mécanismes ne sont pas forcément très très bien connus, hein, faut être honnête, parce que c'est forcément assez compliqué. Il y a des hypothèses avec plus d'espèces en présence, les arbres ont exploité des niches différentes. La stratification du système racinaire va être différente. L'impact de la biodiversité aussi, ça ne joue pas que sur les espèces végétales, mais dès lors qu'on a plein d'espèces, il y a plus d'oiseaux, il y a plus de ravageurs, et un meilleur contrôle des ravageurs par les oiseaux, par exemple. Alors que dans une situation où vous parliez de ces plantations de monoculture où il y a très peu de diversité, eh bien, dès qu'il y a un pathogène, un scolyte qui commence à faire des dégâts, il a le champ ouvert à lui pour pouvoir tout ravager.
Alors, face à la défaillance hydraulique, au cas d'embolie végétale aussi, j'ai découvert que finalement les arbres pouvaient avoir des embolies végétales. Expliquez-nous quand même, Hervé Cochard.
Alors, pour comprendre un peu, il faut faire un petit peu de physiologie, donc on va pas aller trop loin, mais il faut comprendre un peu comment ça marche, comment se fait la montée de la sève, si vous voulez. Donc il faut réaliser que c'est une pompe aspirante. Donc c'est l'évaporation dont on a parlé tout à l'heure, là, c'est le moteur, hein, c'est ça qui fait monter la sève. Et donc en quelques mots pour réaliser comment ça se passe, en fait il faut voir qu'il y a des, dans ces vaisseaux dont on parlait, il y a des colonnes d'eau qui sont continues depuis les racines jusqu'aux feuilles et elles sont maintenues par des forces capillaires au niveau des feuilles. Et lorsqu'il y a de l'évaporation, en fait, il y a des tensions qui se créent. Et ces tensions ont pour effet de tirer sur ces colonnes d'eau. Et alors, ce qui n'est pas très intuitif, c'est que l'eau, en fait, bien que solide, bien que liquide, elle se comporte comme un solide, rigide. Et ça, c'est lié au fait que les molécules d'eau entre elles ont des forces de cohésion qui sont très fortes. Ce qui fait que, globalement, ces colonnes d'eau, elles se comportent comme des cordes. Et une corde, vous savez, vous tirez à une extrémité, eh bien, c'est toute la corde qui monte. Et la tension que vous imposez à une extrémité, elle est transmise sur toute la corde. Et c'est ça qui permet, par exemple, de soulever une masse, par exemple, qui est attachée au bout de la corde. Donc un arbre, ça fonctionne de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a des colonnes d'eau qui sont rigides. Il y a des tensions qui sont générées par l'évaporation au niveau des feuilles. Ces tensions sont transmises à l'ensemble de la colonne d'eau. Ce qui fait que ça fait monter toute la colonne d'eau d'un coup, et ça permet l'absorption au niveau des feuilles, au niveau des racines.
Et l'embolie, oui.
Alors l'embolie, ben c'est le corollaire, c'est que ces tensions, en fait, ça met la sève dans un état physique métastable. La forme stable, elle est sous forme gazeuse. Et en fait, on a le même problème que si qui se passe dans une pompe, dans un puits. Hein. Je pense que vos auditeurs ont dû faire l'expérience peut-être d'aspirer de l'eau avec une pompe d'un puits. Eh bien, il y a une hauteur maximale qui est à peu près une dizaine de mètres. Et au-delà de ces 10 mètres, il y a de l'air qui rentre dans le tuyau et la pompe se désamorce. Donc là, c'est la même chose chez l'arbre. Lorsque les tensions sont trop grandes, il y a de l'air qui peut rentrer dans le tissu vasculaire par un processus de cavitation. Et cette cavitation, ça va créer une embolie gazeuse qui va bloquer la circulation de la sève. Et c'est forcément très grave, hein, comme c'est grave pour les plongeurs, par exemple, parce que tout simplement, les feuilles qui étaient alimentées par ces vaisseaux, elles ne sont plus, et donc elles risquent de se dessécher. Et ça peut conduire à la mort des feuilles, en premier temps. Et puis, si ça se produit encore plus, ça peut conduire à la mort de l'arbre.
Et alors, du coup, comment réduire ce phénomène de stress hydraulique en un mot et tenter de sauver quand même une partie de ces arbres en souffrance et de ces forêts dont l'avenir est quand même problématique, hein. Vous allez peut-être nous en parler l'un et l'autre, mais Hervé Cochard, vous travaillez quand même aussi à la fois sur le passé pour prédire l'avenir. Vous avez mis en place des méthodes, des outils, des techniques. Vous êtes un peu un géotrouve-tout des bois, hein, on peut le dire, à inventer des systèmes hydrauliques des arbres comme le xylem, le cavitron, des systèmes en 3D pour mieux les comprendre. Mais tout ça parce que l'enjeu, c'est quand même de les sauver. Donc, comment vous voyez justement cet avenir, vous ?
Alors, la première chose à dire, c'est qu'il faut être finalement très prudent et même très humble dans nos prédictions, parce qu'on ne connaît pas tout. Hein, la recherche progresse parfois assez lentement. Et puis surtout, c'est qu'on ne peut pas trop s'appuyer sur le passé pour prédire l'avenir. On fait souvent ça En science, hein, on part des observations passées et puis les mêmes choses produisant les mêmes effets, on arrive à prédire le futur. Là, ce qu'il faut réaliser, c'est que les conditions climatiques qu'on va connaître sur Terre dans les 100 prochaines années, on ne les a pas connues depuis 60 millions d'années. Il faut remonter à 60 millions d'années pour trouver une température qui va être de l'ordre de celle qu'on va connaître et une concentration en gaz carbonique dans l'atmosphère qui sera aussi de l'ordre de, un peu inférieur à 1000 ppm. Et donc, il y a 60 millions d'années, les arbres qu'on connaît actuellement, enfin surtout les angiospermes, ils n'existaient pas encore. Ce qui fait qu'on ne sait pas comment vont se comporter les arbres dans des conditions qui sont complètement inédites. Et c'est ça qu'on essaye de comprendre. Et on essaye, alors on a des dispositifs, c'est compliqué d'essayer de simuler le climat futur. Alors augmenter la température, on y arrive. Augmenter la concentration en CO2, c'est possible. Ça nécessite des dispositifs qui sont extrêmement coûteux à entretenir. Il y en a dans le monde, il y en a 4 ou 5 sur des arbres. Il y en a très très peu. Il y en a pas en France, par exemple. Et c'est des dispositifs où on essaye de simuler les conditions futures. Mais extrapoler ce qu'on connaît sur l'eucalyptus, par exemple, à ce qui peut se passer sur un chêne, c'est très difficile. Et donc, il y a vraiment encore un manque de connaissances. Et donc, il faut être encore très humble et très prudent sur nos prédictions. Mais on a quand même quelques solutions à proposer. Et on peut les détailler, hein, si vous voulez. Mm-hmm. En fait, ça va être très dépendant de l'évolution future du climat. Vous savez qu'il y a plusieurs scénarios, les climatologues font des projections qui sont très dépendantes des politiques climatiques qu'on va mettre en place. En gros, il y a deux scénarios un peu extrêmes. Soit on respecte les accords de Paris et donc on a complètement décarboné notre mode de vie d'ici le milieu du siècle. Et dans ce cas-là, on arrive à plus 2 degrés, plus 1,5 degrés à la fin du siècle. Et puis il y a le scénario un peu catastrophe où il n'y a pas de politique climatique.
On ne change rien et on atteint 6 degrés, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Alors, dans la première situation, où on est à plus 1,5 degrés, il y a des solutions. En gros, on va connaître à peu près le climat qu'on a connu il y a quelques années, en 2003 par exemple, avec le taux de CO2 qui va être un peu différent. Et donc, c'est les conditions, on sait à peu près comment ça va se comporter. Il y a des solutions, on va pouvoir adapter les pratiques sylvicoles. Donc l'idée, globalement, c'est d'améliorer ce qu'on appelle le bilan hydrique des forêts. Et donc ça peut se faire en diminuant le nombre d'arbres à l'hectare. Ça diminue la surface foliaire, ça consomme un peu moins d'eau. Mmh. On peut aussi, comme on disait, favoriser le mélange d'espèces pour introduire la biodiversité. On peut aussi faire des peuplements plus hétérogènes. Ça, c'est pas avoir que des arbres qui ont le même âge, mais avoir des jeunes et des individus plus âgés, peuplements hétérogènes. Et puis on peut aussi commencer à favoriser des essences locales que l'on sait être plus résistantes à la sécheresse. Donc souvent dans les milieux en France, ils sont souvent assez contrastés, surtout en montagne, et donc il suffit d'aller assez peu loin pour trouver des milieux qui sont un peu plus secs, des coteaux par exemple, des coteaux calcaires, on va trouver des chênes pubescents, et bien il faut que le forestier il favorise lorsque ces arbres apparaissent dans cette forêt, il commence à faire une sélection pour pouvoir les maintenir. Et puis si ça suffit pas, on peut favoriser leur migration naturelle, donc là aussi aller chercher des ressources génétiques locales, parce que c'est important de maintenir aussi cette biodiversité, et puis les semer des graines de proche en proche, ce qu'on appelle la migration assistée. Voilà, donc ça c'est une première solution. Et si on arrive à faire ça dans ces conditions, je pense que la forêt elle va pouvoir jouer son rôle d'atténuation du changement climatique, oui. C'est-à-dire à stocker du carbone. C'est vraiment, on compte énormément sur la forêt pour stocker du carbone. On pense que ça peut stocker jusqu'à 20% de nos émissions. Donc dans l'équation du bilan qui nous mène à une énergie renouvelable et à un bilan neutre en 2050, il faut vraiment que les forêts jouent leur rôle.
Ah oui, en sachant que les forêts favorisent aussi les pluies, hein, les arbres donnent de la pluie et qu'on a aussi besoin de ce couvert végétal. Karine Marcilly, face à ces sécheresses, vous avez certainement observé de votre côté. Alors je précise que vous êtes donc en Normandie, vous avez mis en place un arboretum complet chez vous au fil des années. Donc vous observez aussi différentes espèces.
J'ai la sensation que les arbres poussent peut-être plus vite que quand j'étais jeune. Je ne sais pas pourquoi. Je remarque que les cernes par endroits sont plus larges que précédemment. Et alors moi, par contre, au niveau de cette histoire de sève, je voulais ajouter, parce que effectivement il y a beaucoup de feuillus par chez moi, donc il n'y a pas d'évaporation pendant qu'il n'y a pas de feuilles, je pense pas, surtout qu'on n'est pas non plus dans des climats extrêmement chauds. Je vois que le bois par moment est très humide, par moment pas du tout, hein, même en pleine feuille, le bois peut être totalement sec. Donc, je suis assez d'accord pour qu'on retourne sur des interventions dans des arbres qu'utilisent quelquefois notamment les viticulteurs. Alors, je vais parler de biodynamie parce que pour moi, effectivement, comme l'estiment certains scientifiques, le pacemaker de l'arbre est lié aussi, comme pour nous les courants marins. Hein. Moi, je suis dans un département entouré de mer, donc je vois bien que la mer monte et descend. Il en est de même de l'eau dans les arbres, et c'est évidemment lié aux astres qui se trouvent autour de notre planète, notamment la Lune. Et il faut aussi considérer ces êtres vivants, je parle par rapport à des interventions que l'on peut faire nous en tant qu'arboriste grimpeur, il faut faire attention pour ne pas blesser un arbre d'intervenir à des moments où on va mettre ces tuyaux en fuite. C'est-à-dire que...
D'où la nécessité de travailler avec la Lune, hein, c'est ce que vous expliquez dans votre livre.
Hein. Ouais, ouais. Exactement, et ça a une répercussion énorme sur la santé de l'arbre. Et à partir du moment où on va prendre tous les paramètres nécessaires, indispensables au bien-être du client sur lequel on travaille, donc l'arbre en l'occurrence, vous avez des réactions totalement différentes. Si vous voulez vous débarrasser d'arbres, vous intervenez à des moments lunaires bien précis, ils ne recèpent pas, ils attrapent plein de champignons, alors qu'à d'autres moments, les plaies vont se recouvrir beaucoup plus rapidement. Alors, j'en profite pour dire qu'il faut arrêter de tailler les arbres en hiver, hein, étant donné qu'ils ne se nourrissent pas, parce qu'effectivement, ils ne font pas de photosynthèse, donc ne fabriquent pas le sucre nécessaire à l'énergie qui va multiplier les tissus au niveau de l'écorce et recouvrir les plaies que l'on occasionne. Alors ça, je sais que ça déplaît à beaucoup d'autres arboristes qui ne travaillent qu'en hiver, mais il faudrait les laisser dormir en hiver et intervenir, je dirais, un mois après que les feuilles soient sorties, de manière à pouvoir laisser les plaies se recouvrir le temps que la photosynthèse qui fabrique du sucre, le temps que les feuilles qui sont là, puissent laisser les tissus se recouvrir. Et moins on va stresser les arbres, moins ils risquent d'avoir de stress hydrique aussi.
Et je sais qu'il y a quelque chose que vous redoutez aussi, hein, Karine Marcilly, c'est la tendance à considérer les arbres comme des produits de consommation et donc à vouloir tout et vite et sans considérer le temps de l'arbre et de sa croissance. C'est un peu cette société du jetable aussi. Hein.
Ah, complètement, oui. Et puis, je vous dis, ce qui est important, c'est que l'arbre ne présente aucune gêne, c'est-à-dire qu'on plante des arbres parce qu'on veut que cela décore un jardin, mais en fait, on ne prend jamais en compte son développement ni sa manière de se développer, ce qui est regrettable. Il faut accepter l'arbre pour ce qu'il est. Un arbre, c'est pas un arbuste, ça mesure plus de 7 mètres de haut et il faut arrêter de considérer que c'est pas parce qu'on ne peut pas prendre son apéritif sur la terrasse de 19h à 19h30 sans soleil que c'est grave, parce que l'arbre a aussi le droit de vivre et comment dirais-je, il faut accepter l'arbre de ses voisins. Voilà, et un arbre, c'est pas forcément un objet qu'on taille en limite de propriété, parce que ça c'est, on est très très souvent confronté à ces problèmes-là, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre l'arbre en tant que tel. Voilà, les huissiers vont venir en nous disant, il ne faut pas qu'il y ait un brin de branche à plus de 20 mètres de haut qui se permette de dépasser chez le voisin. Il faut vraiment prendre les arbres en considération et arrêter de les mutiler sous prétexte qu'ils ne doivent pas dépasser 5 centimètres sur la partie voisine. Enfin, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que on en est à des aberrations de demandes par rapport à des organismes vivants. Alors évidemment, je ne parle pas du tout de la forêt. Hein. La forêt, je vous dis, pour moi, c'est plutôt... Moi, j'ai vécu dans des forêts jeunes où il y avait des feuillus, des résineux. Maintenant,
les feuillus d'ailleurs qui résistent mieux que les résineux face au réchauffement climatique. Hein.
Ben, je pense qu'il y a une symbiose entre eux. Les résineux étaient là depuis 400 millions d'années. Les feuillus sont finalement des résineux qui ont évolué. Hein. Ils se sont dit bon bah ben, pour pas subir les tempêtes de l'hiver et pour ne pas subir le poids de la neige, on va perdre nos feuilles. On va faire des économies d'énergie et en plus, en perdant nos feuilles, on va réalimenter nos sols. On va les réenrichir en minéraux. Donc finalement, les feuillus ne sont ni plus ni moins que des résineux qui ont évolué. Et je pense qu'il faut il faut justement laisser les forêts s'adapter à leurs propres évolutions. Si on leur impose les forêts françaises ont détruit les chênaies et traits, mettons, pour planter des douglas. Mmh. Effectivement, je pense que si la forêt a évolué en passant de résineux à feuillus, il faut qu'on laisse les feuillus. C'est parce qu'ils sont plus adaptés à l'évolution du climat. Si on impose des forêts de résineux partout dans des sols qui ne leur sont pas prédestinés, je ne vois pas comment ils peuvent lutter à des variations de température ou autre.
Oui, donc changer nos regards et nos pratiques.
France Culture, de cause à effet. Le magazine de l'environnement, Aurélie Luneau.
Un grand vent nouveau souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Un monde nouveau, c'est sur cette nouveauté de Feu Chatterton que nous poursuivons notre émission De cause à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture, en direct et dans le cadre de la coalition hashtag Sauver le Présent qui nous rassemble, je le rappelle, avec Le Parisien, Ouzbek Erika, Science et Vie Junior, et nous nous intéressons à l'état de la forêt en stress hydrique du fait du réchauffement climatique. Dossier complet à retrouver sur le site de l'émission franceculture.fr, et toujours avec nous pour en discuter Karine Marcilly, arboriste et lagueuse, présidente de la Défense du patrimoine arboré de la Manche, et puis Hervé Cochard, directeur de recherche à l'INRAE, écophysiologiste à l'UMR PIAF de Clermont-Ferrand. Mais tout de suite, comme d'habitude, direction la rédaction du journal Le Monde, notre partenaire média. Coup de projecteur sur une information choisie par l'un des journalistes du quotidien. Bonsoir Henri Sequel.
Bonsoir.
Vous êtes notre œil du monde planète ce soir, et donc avec vous, nous allons à Gap, dans le département des Hautes-Alpes, où vous avez assisté à un procès insolite. C'était hier, un procès dont l'objet du délit était une queue de loup.
Exactement, oui, j'étais au tribunal de Gap pour ce procès qui sortait un peu de l'ordinaire, puisqu'il s'agissait de juger l'actuel président du conseil départemental des Hautes-Alpes, monsieur Jean-Marie Bernard, pour une affaire qui était à la fois cocasse et très sérieuse. Les faits remontent à février 2020 et se sont déroulés à l'occasion du pot de départ de la préfète du département. Ce jour-là, Jean-Marie Bernard lui avait offert une queue de loup comme cadeau d'adieu. C'était une manière pour lui de montrer son soutien aux éleveurs de son département qui en ont marre de voir leurs moutons se faire dévorer. C'était aussi un moyen de souligner que l'État, selon lui, n'en fait pas assez pour réguler la population des loups, pour limiter la prédation. Alors le problème, c'est que le loup est une espèce protégée et que le simple fait de posséder un morceau de la dépouille d'un loup est quelque chose d'illégal. Alors les associations de protection de l'environnement lui sont tombées dessus, elles ont porté plainte. Et c'est pour ça que Jean-Marie Bernard était jugé pour ce qui s'appelle officiellement le délit de détention, transport et cession d'une espèce animale non domestique protégée.
Alors comment est-ce que le président des Hautes-Alpes s'est défendu ?
Ah, il a eu une ligne de défense assez curieuse, un peu paradoxale, puisque d'un côté il a totalement assumé son geste et revendiqué un acte politique. Et de l'autre, il s'est dédouané en expliquant qu'il ignorait qu'il s'agissait d'une queue de loup, qu'il était incapable de faire la différence entre une queue de loup, une queue de chien, une queue de renard. Et d'ailleurs, il a expliqué qu'il ne savait même pas d'où venait cette queue de loup, qu'il l'avait trouvée un beau matin posée sur sa boîte aux lettres quelques jours avant les faits, comme ça, comme par hasard.
Qu'est-ce qu'il risque concrètement ? Quelle peine encourt-il ?
Alors, sa ligne de défense n'a pas franchement eu l'air de convaincre la juge, qui rendra sa décision le 12 mars, donc on saura ce jour-là. Le procureur a requis 2 mois de prison avec sursis et 3 500 € d'amende, ce qui est pas rien, mais ce qui est quand même plutôt symbolique. Pour Jean-Marie Bernard, de toute façon, on a eu l'impression que la peine qui lui serait infligée était quelque chose d'anecdotique. Clairement, pour lui, ce procès, c'était surtout l'occasion de bénéficier d'une tribune pour faire le procès du loup et de l'inaction de l'État. Ça a plutôt bien marché puisqu'on en a fait un article et on en parle ce soir. Donc pendant le procès, son avocat a montré au tribunal et au public des photos d'agneaux ouverts en deux et sanguinolents. Il a expliqué que le nombre d'attaques de loups grimpait en flèche depuis quelques années. En face, les associations ont pris la défense du loup, évidemment. Donc voilà, ce procès était un énième épisode de ce débat complexe dans lequel personne n'a complètement tort. Entre la défense du loup d'un côté au nom de la biodiversité et de l'autre côté la défense des éleveurs dont les troupeaux sont attaqués. C'est un débat très vif et d'ailleurs pendant que le procès se déroulait à l'intérieur du tribunal, il y avait dehors un face-à-face assez tendu entre quelques militants pro-loup et plusieurs centaines d'éleveurs. Alors ça n'a pas dégénéré, il y a simplement eu quelques insultes et quelques jets d'eux, mais on a clairement eu l'impression que les deux parties étaient irréconciliables.
Alors vous restez un petit peu avec nous, Henri Sequel, je me tourne vers nos invités, peut-être Hervé Cochard, hein, vous qui plongez comme ça régulièrement dans les forêts. Cette relation au monde sauvage, elle fait partie bien évidemment de l'équilibre des écosystèmes que l'on retrouve dans les forêts. Est-ce que c'est une question que vous rencontrez, vous, sur le terrain ?
Oui, alors je n'ai pas trop rencontré de loups jusqu'à présent, mais bon, effectivement, ça a été dit, hein, c'est un sujet compliqué, difficile, on trouve pas de solution simple. Je prendrais plutôt une réflexion de forestier pour dire que la forêt a aussi besoin des loups. Il y a actuellement un gros problème de régulation des grands herbivores, c'est les cerfs, les chevreuils en forêt. Et il y a une telle population de ces herbivores que la régénération naturelle des forêts est actuellement très très compromise. Et c'est l'une des clés de l'adaptation des forêts au changement climatique, hein, c'est via cette régénération. Et donc le loup, c'est une partie de la solution. Et donc il faut aussi de composer avec la présence des loups en essayant de minimiser les désagréments qui donnent lieu à ce type de procès, évidemment.
Karine Marcilly, une réaction de votre côté ?
Ben oui, alors moi, je suis arboriste, mais aussi éleveuse, donc je suis aussi pour que le loup revienne, parce que j'essaie de planter souvent des arbres qui sont tous régulièrement broutés par les chevreuils. Et il m'arrive, quand je vais voir mes vaches, d'en voir 7 ou 8 sur ma parcelle, ce qui est très important et qui, malheureusement aussi, quand ils sont en surpopulation, amène des maladies telles que la tuberculose, qui peuvent être contaminées aussi aux troupeaux. Donc je pense que effectivement le loup est un régulateur de vie et il suffit de protéger ses troupeaux pour qu'ils ne soient pas forcément attaqués par des animaux. Nous on est régulièrement attaqués par des renards et il y a des régulations qui se font et il faut si on veut pas que les poules mettons soient mangées par les renards, il faut les protéger. Voilà.
Henri Sequel, le jugement sera rendu à quel moment ?
Le 12 mars, dans 3-4 semaines. C'est intéressant ce que j'entends. Le problème, c'est que les éleveurs, c'est peut-être pas le débat du soir, mais les éleveurs adeptes du pastoralisme expliquent que eux, ils font paître leurs moutons comme ça en liberté, justement à l'extérieur des enclos. C'est pour ça que que la présence du loup leur pose problème.
Eh oui, on sent que les camps, comme vous le disiez, sont encore irréconciliables et qu'il y a certainement beaucoup à entreprendre hein, pour faire en sorte que chacun y trouve son compte, en tout cas, et parvienne à accepter ces vies à la fois sauvages et donc humaines de l'autre côté. Merci Henri Sequel, merci à vous. On vous libère hein, concrètement. Je précise pour les auditeurs que toutes les informations, bien sûr, sur votre article et sur ce sujet sont à retrouver sur notre site et sur lemonde.fr.
Merci beaucoup, Bertrand.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Au pied des Pyrénées, voilà le paysage que contemple chaque matin Joseph Bourdépé.
Je peux reconnaître d'ici tous les arbres qui sont dans la forêt. Je les connais personnellement.
Il est l'heureux propriétaire de l'arboretum de Païssas, dans le Béarn. Un sanctuaire pour des arbres venus du monde entier. 150 essences différentes, comme ce peuplier du Yunnan qui peut dépasser les 30 mètres. Les feuilles mortes ne se ramassent pas. Elles feront de l'humus qui sera bénéfique aux arbres. L'arboretum est ouvert au public. Il reçoit environ 1500 visiteurs par an. Avec l'ONF, un plan de gestion a été établi.
Un arboretum, il a deux fonctions essentielles. C'est la fonction sociale qui permet de montrer aux gens et surtout de les faire voyager au travers d'espèces qui viennent de régions dans lesquelles ils iront peut-être pas, vers les sources du Gange, vers le parc du Yosemite, vers la Chine ou ailleurs.
Mais aussi conserver le capital génétique des espèces rares pour pouvoir les replanter.
Eh oui, conserver ce capital génétique, c'était un reportage diffusé sur France 2 le 8 décembre 2020. Hervé Cochard, on a compris, il faut adopter une gestion durable des forêts. Il y a ces questions, effectivement, d'accompagner, d'aider les arbres, les forêts face au réchauffement climatique. Est-ce que vous avez déjà vu des changements de politique forestière en France ou ailleurs? Et est-ce que concrètement, vous êtes aussi consulté par l'ONF ou vous travaillez avec eux?
Oui, alors on travaille beaucoup avec l'ONF, hein, enfin, en tant que laboratoire de recherche, mais globalement à l'INRAE, en particulier avec la cellule recherche et développement de l'ONF. Et l'ONF a pris conscience des règlements qui sont en cours, alors peut-être un peu tardivement, parce que la science a fait son travail il y a déjà longtemps. Déjà au début, à la fin du siècle dernier, on savait qu'on s'orientait vers des scénarios un peu catastrophes, et que c'est finalement que maintenant que l'ONF et aussi les privés, hein, le CRPF par exemple ou le CNPF, mettent en place des expérimentations. Alors, on en a fait écho dans les médias, en particulier c'est le projet Giono, qui consiste à aller chercher des provenances dans l'aire sud de répartition des espèces. Donc on va chercher par exemple des chênes autour ou pourtour du Méditerranéen et on les met un peu plus au nord. L'idée derrière étant que les espèces qui sont au sud sont probablement mieux adaptées au climat futur. Et puis ils mettent en place aussi des îlots d'avenir. Donc là c'est carrément aller chercher des espèces exotiques qui ne poussent pas naturellement et qui seront peut-être la solution si on s'oriente vers un scénario catastrophe où on aura plus 5 degrés à la fin du siècle.
Alors l'ONF avait été un peu dans la tourmente. Hein. On a longtemps parlé de malforestation, course à la rentabilité, et l'ONF reste endetté, hein, puisque en 2021, d'ailleurs, le gouvernement voulait encore supprimer 90 postes. En tout cas, on sent que c'est un organisme aussi qui vit une double situation. On parlait aussi des coupes rases, etc. Là, vous sentez que malgré tout, il y a une autre façon, une autre politique qui peut potentiellement se mettre en place?
Alors c'est difficile de concilier des politiques d'équilibre budgétaire, par exemple, pour dire les choses peut-être concrètement, que l'on impose à l'ONF, et puis la nécessité de gérer de la biodiversité, de faire perdurer ces forêts, de demander à ces forêts de capter du carbone pour retarder les effets du changement climatique, et que ces fonctions essentielles, elles, ne sont pas rémunérées. C'est là tout le dilemme. Stocker du carbone en forêt, ce n'est pas rémunéré. Maintenir de la biodiversité en forêt, ce n'est pas rémunéré. Et donc, il faudrait qu'il y ait des possibilités pour ces organismes de gestion de pouvoir se faire rétribuer aussi par ces fonctions écosystémiques. Et ça permettrait certainement d'orienter vers une gestion plus vertueuse de certains écosystèmes. Et puis, ce qu'il faudrait aussi, c'est peut-être mieux faire le distinguo entre des forêts de production, parce qu'on a besoin de produire du bois en France. Le bois qu'on ne produit pas en France, on l'importe d'ailleurs, et ça, c'est pas bon d'un point de vue climatique. Et donc, il faut accepter qu'il y ait des forêts de production, où peut-être on introduise des espèces exotiques qui produisent du bois et qui nous permettent de limiter l'impact du changement climatique aussi. Et puis, préserver aussi des forêts plus naturelles qui vont permettre de maintenir la biodiversité, permettre de stocker le carbone, permettre de jouer ce rôle aussi de fonction plus écosystémique. Et donc, c'est souvent, on a une vision un peu trop manichéenne, je dirais. Et donc, il faudrait prendre la gestion forestière dans sa globalité et réaliser qu'il y a différents types de forêts et qu'elles n'ont pas toutes le même rôle à jouer.
Karine Marcilly, sur ces questions, je crois que l'ONF aussi vous a approché. En tout cas, vous travaillez avec eux.
Oui, moi, l'ONF me demande surtout d'intervenir parce que quelquefois, effectivement, c'est très bien. Ils gardent de très vieux sujets, donc on me demande d'aller entretenir les plus vieux arbres remarquables de certains parcs de l'ONF. Mais je suis assez effarée de voir des grumes de chênes absolument magnifiques partir sur des grumiers et tout part au Havre. Et tout est envoyé à la Chine parce que plus aucun consommateur ne souhaite, plus de scieries locales, d'ailleurs elles ferment toutes les unes après les autres, ne consomment de chênes produits sur place avec une qualité exceptionnelle pourtant. Et ce sont les Chinois qui achètent les fûts et donc qui ont énormément de transport. Et il faut savoir quand même qu'on rachète du bois à la Chine qui vient de chez nous. Donc ça n'a absolument aucun sens.
Et bien j'en profite justement, Karine Marcilly, puisque vous nous donnez cette occasion.
Enfin, je veux dire, oui. Maintenant, c'est tellement des têtes d'abattage. Enfin, effectivement, il faut aller vite pour produire du bois. Alors, je ne sais pas comment on faisait avant, parce que avant on avait des bûcherons, on faisait du bois de très très grande qualité. Maintenant, on fait pousser des arbres avec des engrais, énormément de produits pour qu'ils poussent très vite avec une résistance mécanique beaucoup moindre. Donc je ne comprends pas notre manière d'exploiter le bois forestier aujourd'hui.
Voilà. Peut-être y a-t-il encore un peu d'espoir. Je vous propose d'écouter ce reportage qui a été diffusé sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. C'était le 22 novembre 2016.
C'était un cèdre centenaire. Il menaçait avec ses autres congénères les habitations alentour.
Aujourd'hui, c'est particulier parce qu'on est dans une période lunaire qui s'y prête, qui est favorable. C'est-à-dire qu'il y a une semaine où la lune est vieillissante. Juste avant qu'elle renouvelle, le quartier se prête à l'abattage des bois. Donc, meilleure conservation, meilleure utilisation après pour les bois extérieurs, conservation dans le temps. Donc, une utilité très spécifique.
Comme dans les jardins, la lune a donc une influence sur le bois.
J'ai des utilisateurs de bois qui me réclament ces bois coupés en bonne lune. Et j'ai une clientèle un petit peu spécifique pour ça, justement, pour des bois de conservation qui se conservent. Il y a quelques charpentiers encore qui font très attention à ça. Moi, je coupe mes bois ici sur la fin de vie de la lune, pour la durabilité dans le temps, pour pas que les insectes se mettent dedans, et pour la conservation.
Karine Marcilly.
Ah oui, ben moi, j'effectue des tailles sur des arbres remarquables, toujours en biodynamie, on va dire. Je réponds à un calendrier lunaire bien spécifique par rapport aux essences d'arbres aussi. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a une différence. Moi qui coupe le bois à la main, je peux vous dire qu'il y a des sensations différentes par rapport aux positions lunaires. Et il y a une répercussion sur l'état de santé de l'arbre quand on le taille selon des positions lunaires bien précises. Et on fait appel à moi effectivement pour abattre des bois d'œuvre, notamment chez des vieux menuisiers, pour que je puisse abattre le chêne le jour où le bois ne fissurera pas, n'attrapera pas de parasites, notamment sur les frênes ou autres. Et effectivement, le bois ne bouge pas, il n'y a aucune fissure qui se forme, c'est extraordinaire.
Hervé Cochard, on a le sentiment qu'on a oublié finalement probablement des pratiques ancestrales et qui avaient mieux compris la relation à ce vivant végétal. De votre côté, qu'est-ce qu'ils vous ont appris, les arbres ?
À être très humble, à être aussi très, très conscient que ce sont des ailes d'être fragiles. J'ai ressorti, parce que vous l'avez demandé, une phrase, hein, c'est la phrase de Blaise Pascal qui dit que l'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Je pense que Blaise Pascal avait déjà compris la fragilité de l'homme et qu'il doit prendre soin des arbres dans le milieu et du milieu dans lequel il vit. Bon, ensuite, l'homme est aussi un roseau pensant et donc on peut espérer quand même qu'il y ait une certaine note positive et qu'il mette à profit son intelligence pour préserver son existence dans la nature. Alors après, pour parler de la Lune, alors c'est un sujet, une pente un peu glissante. Hein. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a, de façon objective, il y a très très peu d'études scientifiques sur le sujet. Alors je ne sais pas si c'est parce que les scientifiques ils sont un peu frileux ou si parce qu'il n'y a pas de financement qui leur permette d'explorer ce sujet. Et donc, alors il y a des tas d'observations, mais le plus souvent, elles ne sont pas démontrées scientifiquement. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas réels, qu'ils ne sont pas avérés, mais ils n'ont pas été démontrés. Et ça, je pense que la première nécessité, ça serait d'essayer d'objectiver des observations. Et ça, je pense que chacun peut y contribuer. On peut facilement adopter la méthode scientifique pour pouvoir rendre les choses un peu plus objectives, un peu plus rigoureuses. Et donc, ça passe par des protocoles d'observation rigoureux. Hein. C'est la base de la démarche scientifique. Il faut des contrôles, il faut des répétitions, il faut des statistiques. Au-delà de faire de simples observations, je pense qu'il y a des bases de données à constituer. Et puis, si effectivement, il y a des effets significatifs qui ressortent de ces bases de données, je pense que les scientifiques vont s'y intéresser et essayer de comprendre les bases physiques qui sont derrière ces phénomènes qui sont l'imaginaire populaire.
En sachant que les arbres ne nous ont pas tout dit et qu'il reste encore des mystères à percer, merci à tous les deux. Merci Karine Marcilli. Merci Hervé Cochard. Et je rappelle le titre de votre livre, Karine Marcilli, Ma vie avec les arbres, livre paru chez HarperCollins. Et puis comme d'habitude, tous les liens, les informations, la biographie sont à retrouver sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet. Téléchargement, réécoute à votre disposition. Et vous pouvez nous suivre sur Twitter ou sur notre page Facebook. Mardi prochain, nous vous proposons l'émission Mécanique médiatique, science et lobby en réécoute avec Sylvain Laurent, Stéphane Aurel, Francis Château-Renaud et Yves Siama. Et sachez qu'en complément, je vous signale la diffusion du film La Fabrique de l'ignorance de Stéphane Foucard et Mathias Girel, accessible sur arte.tv. Mais pour l'heure, vous restez avec nous dans un instant, suite de vos programmes sur France Culture avec le journal de la rédaction. Très belle soirée à vous tous.